Chapitre 2. Madeleine replia le petit chandail de son fils Arthur en regardant par la fenêtre du salon. Devant chez elle se tenaient Lucienne et deux autres voisines qui gesticulaient et parlaient à voix haute. Par moments, sa grand-mère Palmyre levait elle aussi le nez de sa machine à coudre pour tendre l'oreille. « Veux-tu bien me dire ce qu'elles ont à s'époumoner de même ce matin? » finit par demander la vieille femme. Elle délaissa sa couture pour approcher sa chaise de la fenêtre. Des bribes de la conversation enflammée parvenaient jusqu'à elle. « J'entends pas tout. Oh, j'espère que c'est rien de grave. Va donc voir ce qui se passe, Maddy, » suggéra Palmyre, le regard curieux. « Non, grand-mère, » répondit aussitôt la jeune femme. « J'irai pas me mêler de leur discussion. Surtout pas aujourd'hui, » eut envie de rajouter Madeleine. Dès son réveil, le chagrin l'avait envahi. Un an plus tôt, la journée avait pourtant si bien commencé. Il faisait beau et chaud. Les enfants de Simone l'avaient supplié de les amener à la plage. Depuis cette journée-là, combien de fois s'était-elle demandé pourquoi elle avait accepté? Si seulement ils étaient allés au jardin à la place, ou s'ils étaient restés dans la cuisine à dessiner, sa vie serait bien différente maintenant. Je pense à toi, mon garçon. Pardonne-moi, je t'en prie. Songea Madeleine, en évitant de regarder par la fenêtre. La femme adorait Éloi, et sa noyade avait détruit sa relation avec sa sœur jumelle. Même si depuis la tragédie, Madeleine avait accouché de son fils Arthur et se retrouvait enceinte de son deuxième enfant, il n'en demeurait pas moins que cette journée qui débutait lui rappelait son pire cauchemar. Alors, elle n'avait pas l'intention de vérifier si le trio de voisines devant chez elle jasait de cet événement qui avait bouleversé le village en entier. La vieille femme allait insister lorsqu'elle remarqua le visage fermé de sa petite fille. S'en voulant aussitôt, elle fit un piètre sourire édenté à Madeleine et chuchota « Tout le monde a oublié, ma fille, t'en fais pas. Personne n'a oublié. C'est impossible. Mais de toute façon, grand-mère, je veux pas parler de ça. Voulez-vous jeter un coup d'œil sur le petit? Je vais aller enfourner. » L'octogénaire se releva lentement et Madeleine amena le bébé pour le placer dans un petit parc de bois que sa voisine Lucienne était venue leur offrir quelques semaines auparavant. Heureux de retrouver quelques hochets, Arthur fit un large sourire à sa mère. Madeleine déposa une dizaine de boules de pâte sur une grande planche de bois, puis elle sortit. « Je reviens vite, grand-mère. Prends ton temps, ma fille. J'ai de quoi m'occuper. » Palmyre lança un coup d'œil affectueux à son arrière-petit-fils, qui arborait la même chevelure dorée que Philomène et surtout que Jacquelin lorsqu'il était enfant. Depuis l'arrivée du frère des jumelles au village de Lens-à-la-Joie, la vieille femme s'était fait un honneur de fréquenter la première messe du dimanche chaque semaine. Elle houspillait le mari de Madeleine pour qu'il attelle la carriole au petit matin, et Freddy, qui préférait paresser un peu au lit du temps du curé Mathieu, avait à présent le dimanche matin en horreur. Dire que je pouvais aller à la messe de 10 heures avant que notre seigneur Jacquelin décide de nous envahir, avait-il marmonné à l'aube quand Palmyre lui avait chuchoté « Oublie pas, Freddy, demain c'est dimanche. Non, non, grand-mère, pas de danger. » C'est donc la mine basse que le pauvre homme s'était dirigé vers la grave pour cette longue journée de pêche estivale. En soupirant, Freddy avait ruminé la cigarette au bec, en songeant que l'arrivée de son beau-frère à l'église avait signé la fin de la seule matinée dont il pouvait profiter pour relaxer pendant l'été. « Me voilà pris pour écouter les sermons pompeux de Jacquelin au chant du coq. » avait-il ronchonné la veille, même s'il savait que sa femme ne le prendrait pas en pitié. Heureuse de se rendre utile, Palmyre chantonna en continuant à tourner la manivelle de son moulin. Arthur, assis bien tranquille dans le coin de son parc, levait la tête par moments pour jeter un long regard curieux sur la femme aux cheveux fins et blancs qui lui tournait le dos. Il se tut pendant quelques minutes, et quand Palmyre décida de vérifier ce qu'il faisait, elle s'exclama « Oh, mon petit sacripant, veux-tu bien me dire comment tu as fait pour te retrouver avec ça entre les mains? » L'aïeul agrippa le banc de ses doigts tremblants pour se soulever et s'approcher à petits pas vers Arthur. « Ga, ga, ga !» maugréa l'enfant la bouche pleine de tabac. Devant lui, la boîte de bois de son père était grande ouverte, et le bébé avait étalé les précieuses cigarettes de Freddy au fond du parc. Ce faisant, il avait décidé d'y goûter, comme en faisait foi son petit visage crispé, qui grimaçait en tentant d'expulser les morceaux brunâtres pleins de salive. Prise au dépourvu, la pauvre Palmyre se pencha difficilement, et elle saisit la caissette de bois, tout en y fourrant ce qu'il restait des cylindres intacts. Elle s'empressa de glisser son index dans la bouche encore édentée et fit un léger crochet avec son doigt pour ressortir tous les morceaux que l'enfant y avait glissés. « Mon pauvre Arthur, ça t'apprendra à toucher à ce qui traîne proche de toi !» clama la femme sans trop de pitié quand elle réalisa que l'enfant ne se portait pas plus mal. Elle poussa la petite table de salon sur laquelle Freddy avait laissé sa caissette à tabac contre le mur et s'empressa de féliciter l'enfant qui faisait la moue, attristé de se voir privé de son nouveau jouet. Avant qu'il ne pleure, Palmyre se dépêcha donc de lui dire « Quel bon bébé tu es, Arthur! Tu as réussi à te mettre debout dans le parc tout seul, bravo! C'est bien de valeur que ce soit pour faire des niaiseries, mais ça veut dire que tu vas commencer à marcher bientôt, ça! » La vieille femme tapa dans ses mains en riant. Puis, d'abord hésitant, le petit se mit à l'imiter, oubliant que Palmyre lui avait enlevé un objet fort convoité quelques instants auparavant. Un peu plus tard, quand Madeleine pénétra dans la maison avec la mine basse, Palmyre fit un clin d'œil à son arrière-petit-fils, en se félicitant d'avoir sauvé la situation avant le retour de la jeune mère. Elle ferait l'innocente si jamais Freddy s'en rendait compte. Souriant à Madeleine, l'octogénaire annonça « J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma fille. Si je vous disais que je vous bats, grand-mère, grommela Madeleine, moi j'ai deux mauvaises nouvelles.
Bien voyons donc, comment ça se peut tu viens de sortir pour aller boulanger? Dis-moi pas que t'as échappé les miches. »
Palmyre se tourna vers Madeleine et l'observa les yeux à demi fermés. Depuis la tragédie survenue l'année précédente, sa petite fille avait retrouvé un peu de vigueur. Elle n'était plus emmurée dans une tristesse constante, et son visage avait regagné ses belles rondeurs. La jeune femme n'avait pas perdu le poids gagné lors de sa première grossesse avant de redevenir enceinte et, de ce fait, se retrouvait un peu plus ronde que sa jumelle, qui avait donné naissance à sa dernière enfant près de 2 ans plus tôt. La chevelure brune de Madeleine était coupée aux épaules et retenue au-dessus de ses oreilles par 2 bob-épines noires. Délaissant son observation affectueuse, Palmyre attendit que la jeune explique ses propos. « La première, c'est que la corde à linge est brisée. » Encore? Il va falloir attendre que Freddy revienne ce soir, en espérant que ce soit pas trop tard pour la réparer. De toute manière, demain c'est dimanche. Tu laveras pas, observa finement l'aïeul. Non, c'est sûr. Il faut qu'il m'arrange ça avant lundi. Mais la deuxième nouvelle est bien pire, grand-mère. Les yeux de Madeleine se remplirent de larmes. Elle s'effondra sur le divan près de Palmyre et chuchota « Lucienne est venue m'aviser que mon cher frère a décidé d'organiser une petite messe spéciale pour commémorer le premier anniversaire de la mort d'Éloi. Une messe pour nous rappeler à tous ma négligence et mon manque de prudence.
C'est une bonne idée, hein? »
La femme se pencha pour plonger son visage dans ses mains, alors que sa grand-mère soupirait profondément. Cette tragédie ne finirait donc jamais? Elle se glissa pour prendre place aux côtés de Madeleine et l'entoura de son bras.
« Bon, bon, Maddy, vire-toi pas à l'envers de même. C'est normal qu'il y ait une messe pour Éloi. C'est pas la première fois que ça se fait pour un défunt.
Pour un défunt que j'ai tué, oui, c'est la première fois. » cracha Madeleine en éclatant en sanglots.
Aussitôt, son fils Arthur fronça ses sourcils pâles et agrippa le rebord du parc de bois. Il remua de toutes ses forces pour se relever et y arriva, à force de grimaces et de poussées, puis il marmonna « Maman.
Oh !» s'exclama aussitôt Madeleine, le cœur rempli de joie. « Arthur a dit « Maman ». Vous avez entendu, grand-mère? Il a dit « Maman ». En plus, il s'est levé sans aide. Oh, viens ici, mon beau bébé !»
Madeleine tendit ses bras et passa son fils par-dessus les barreaux du parc pour le cajoler, en souriant à travers ses larmes. Elle oublia momentanément sa peine, et celle-ci fut bientôt remplacée par une colère sourde.
« En plus, voulez-vous bien me dire pourquoi tout le monde est au courant de cette célébration spéciale avant moi?
J'imagine que Jacqueline a pensé que tu voudrais pas y aller, Maddy. Il a du cœur, ton frère, quand même. »
Hésitant à propos de cette qualité, qui ne lui semblait pas tellement représenter son aîné, la jeune femme se releva, le bébé sur sa hanche. Simone et elle avaient souvent commenté la vocation de leur frère en se demandant s'il ne fuyait pas plutôt une vie de dur labeur en devenant curé. Mais force lui était d'admettre que, depuis son retour au village, Jacquelin démontrait un talent pour rassembler les gens et s'assurer qu'ils restent dans le droit chemin. Madeleine essuya une étrange miette accrochée au coin de la bouche baveuse de son fils avec le bas de son tablier. Puis, plissant le front devant ce bout de nourriture incongrue, elle vint pour s'enquérir de sa provenance auprès de sa grand-mère quand la porte avant résonna d'un puissant coup. Les deux femmes se lancèrent un regard entendu, certaines que Lucienne revenait s'assurer que sa petite voisine n'était pas trop bouleversée par l'annonce qu'elle lui avait faite. Quand elle ouvrit la porte, Madeleine grimaça en dévisageant Jacquelin, qui se tenait dans le cadre de bois. « Tiens, de la grande visite? » chuchota-t-elle en inspirant pour retenir ses larmes. « Ma sœur, je voulais venir te voir pour t'informer avant que quelqu'un d'autre s'en charge trop tard. » répliqua Madeleine, en se tassant pour laisser entrer son frère dans la cuisine. Pour une rare fois, l'homme blond resta muet. Il avait vraiment prévu avertir les jumelles de son intention avant que les autres villageois ne le fassent. Il avait eu cette idée de messe commémorative en rencontrant Simone sur le chemin à l'aube, et croyait sincèrement que cette cérémonie mettrait du baume sur sa plaie encore vive. Choqué contre son bedeau, Gédéon Ouimet, qui avait dû ébruiter son plan, il haussa ses larges épaules en levant ses paumes vers le plafond. « Dieu en a voulu ainsi, faut-il croire? Bref, j'aimerais que tu viennes à l'église pour cette messe en l'honneur des lois. Pas question. » asséna Madeleine en déposant son bébé sur le sol. Jacquelin prit un air réprobateur en plaçant une main ferme sur l'épaule de sa cadette pour la diriger vers une chaise de cuisine. Madeleine se laissa faire, le visage renfrogné, bien déterminée à ne pas se laisser amadouer. Une fois qu'elle fut assise, le curé prit place devant elle. Palmyre fixait le frère et la sœur, et même si elle jurait à tout vent que Jacquelin était un homme de foi extraordinaire, elle doutait quand même un peu de son idée pour la soirée. L'aïeule se pencha donc vers l'avant sur le sofa pour être certaine de bien entendre la suite de la conversation. « Madi, il va falloir que Simone et toi mettiez vos blâmes respectifs de côté une fois pour toutes. » Madeleine ne répondit pas, préférant triturer les boutons du devant de sa blouse fleurie. Juste à l'idée de se retrouver encore dans l'église aux côtés de sa jumelle et d'entendre ses pleurs et ses lamentations, elle avait l'impression que son cœur se brisait en morceaux. Il était hors de question qu'elle se rende à cette cérémonie funèbre. Palmyre, qui attendait la réponse de sa petite fille, se leva péniblement pour venir se placer derrière elle. Sa jambe blessée l'hiver précédent peinait à suivre le rythme de l'autre. Hochant la tête avec un air navré, elle susurra à contre-cœur. Mon cher Jacquelin, je... « Comprends un peu Maddy d'être réticente à l'idée d'assister à cet office pour Éloi. »«
Ah, comment ça, grand-mère ?»
Haussant un sourcil broussailleux, l'homme leva le menton vers l'octogénaire. La pauvre vieille, mal à l'aise de contredire son curé préféré, se racla la gorge pour ajouter
« Cet événement est encore bien frais en mémoire. Ça fait quand même un an. »
précisa l'homme, comme si quelqu'un dans la Maison Bleue pouvait avoir oublié la noyade de l'enfant.
« Seulement un an, justement !»
chuchota Madeleine en posant les mains sur son ventre rond. Elle se releva sans plus attendre, n'ayant pas l'intention d'écouter l'argumentaire de son aîné. Jacquelin fit la moue, déçu de la réception faite à sa proposition. En sortant de la demeure, l'homme espérait que Simone percevrait son intention comme un bel hommage à son fils, qu'elle serait plus encline à réaliser la gentillesse du geste de son grand frère. Mais quand il mit les pieds chez l'autre jumelle, la réaction de cette dernière fut encore plus virulente que celle de Madeleine.
« Veux-tu bien me dire ce qui t'est passé par la tête, Jacquelin? Je refuse que tu célèbres une messe pour mon gars, m'entends-tu? C'est le pire moment de ma vie et tu voudrais qu'on le glorifie? Es-tu tombé sur la tête ou est-ce que tu manques à ce point-là de bienséance? »
Choquée de ce manque de délicatesse, Simone repoussa sa fille aînée, qui venait voir d'où provenaient les éclats de voix. Depuis une heure, Philomène s'amusait dans la cuisine d'été avec Gustave, qui avait finalement décidé que la maison des Laviolette était beaucoup plus intéressante que la sienne, où il ne fallait pas faire de bruit parce qu'Omer, son père, était souvent malade. Devant la fureur qui envahit le visage de sa sœur, Jacqueline se releva en frappant des mains la table devant lui. Sa nièce sursauta et s'enfuit aussitôt de la pièce. Gustave s'avança dans l'étroit passage entre le bâtiment principal et la rallonge et fixa l'homme en soutane les yeux grands ouverts. Bouche pincée, doigts crispés, le curé en avait gros sur le cœur, lui qui se considérait comme un être soucieux du bien-être de ses ouailles. Horace entra dans la maison au moment où l'homme lissait le devant de son vêtement noir et proclamait « Cette messe en mémoire de ton enfant aura lieu, que tu le veuilles ou non. Ta sœur et toi devriez avoir honte de ne pas respecter son âme. J'espère que vous trouverez quand même une place au paradis. » L'homme se retourna pour faire face à un Horace estomaqué, et sans même sembler le voir, Jacqueline sortit de la Maison Blanche sans plus un mot. « Bon débarras !» lança Simone alors que son beau-père s'exclamait « Simone !» Tout le long du chemin menant à sa modeste demeure derrière l'église, Jacqueline Gérard ne dérougit pas de colère. Il grommelait sans remarquer le soleil lumineux, la mer qui brillait au loin et la montagne où les feuillus bourgeonnaient parmi les conifères qui avaient gardé leur parure tout l'hiver. L'homme n'en revenait juste pas de cette ingratitude. « Quand je pense que j'ai réfléchi toute la matinée pour préparer cette belle cérémonie et que ni l'une ni l'autre ne daignera s'y présenter, quel sang-cœur !» Au moment où il levait la tête du sol poussiéreux, le curé croisa la jeune Rosalie Taillefer, qui montait porter un bloc de savon à une paroissienne incapable de se déplacer au village. Dans la clarté du jour, le visage ovale de la fille du marchand général s'illumina quand elle remarqua Jacqueline. Elle avait été si heureuse de le voir remplacer le vieux curé Mathieu qui n'en finissait plus de lui donner des pénitences à chacune de ses confessions. Le frère des jumelles, au moins, ne s'offusquait pas d'un petit excès de gourmandise. Le curé apprécia la bonne humeur rayonnante de la jolie brunette de 19 ans lorsqu'elle le salua gaiement. « Bonjour, monsieur le curé. Fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument, jeune fille. Rappelle-moi ton nom déjà. » Un peu heurtée que l'homme le plus important du village ne se souvienne pas d'elle, Rosalie cacha une moue déçue sous un rire un peu niais. « Je suis la fille de Gaston Taillefer, mon nom c'est Rosalie. »« Ah oui, bien sûr !» L'homme posa son regard bleu clair sur les lèvres souriantes et serra fortement ses mains sur ses avant-bras croisés l'un contre l'autre. Et il n'avait pas remarqué à quel point cette jeune fille était ravissante. Il lui faudrait s'assurer que sa vertu ne soit pas compromise par un de ces villageois un peu rustres qui peuplaient le village de Lens-à-la-Joie. « Et vous allez à quel endroit de si bon matin, jeune femme ?»« Chez Cléophas Langevin. » Il faut que j'aille porter du savon parce que sa femme est malade et qu'elle ne peut pas descendre jusqu'au magasin. En tout cas, c'est ce que le pêcheur a dit à mon père quand il est passé tantôt. Jacqueline se retint pour passer une remarque sur la paresse qui semblait affliger certaines personnes au village. Il devrait aller vérifier si cette dame Langevin était réellement si souffrante. En attendant, il huma avec délice l'odeur un peu fruitée mêlée à une légère sueur émanant du corps de Rosalie. Assurément, une charmante enfant. Il s'avança un peu plus près et demanda « Vous avez un prétendant, mademoiselle Taillefer ?»« Eh non. » La jeune marchande fit la moue en chassant de son esprit le visage de Freddy Poirier. Malgré toute l'attirance qu'elle éprouvait envers le mari de Madeleine, elle savait que le mariage était une union indissociable. Il y avait bien Émile Pelletier, mais à la suite de leurs quelques discussions, elle ressentait peu d'intérêt pour l'homme engagé par Freddy. Alors, elle haussa les épaules en levant ses paumes vers le ciel. Le curé hocha la tête avec compréhension et posa sa main sur le coude de Rosalie. « Il serait temps de fréquenter un homme sérieux. Vous avez l'âge de vous marier, n'est-ce pas ?»« Je le sais. J'ai 19 ans depuis 3 mois. C'est pas parce que je veux pas, monsieur le curé. » répliqua aussitôt Rosalie d'un ton vibrant. « Mais vous savez bien que les célibataires au village sont pas mal rares, hein? C'est pas comme si on était à Gaspé, et moi, je veux pas partir d'ici. » Jacqueline abaissa ses paupières pour éviter que la femme ne remarque les coups d'œil qu'il jetait à son corps ferme. Cette Rosalie ferait une parfaite épouse, il en était convaincu. Une énergie rafraîchissante, des hanches parfaites pour enfanter, le tout agrémenté d'un très joli visage aux pommettes rougeoyantes. Voyant son bedeau sur les marches de sa maison derrière la jeune femme, le curé laissa tomber son bras le long de son torse et précisa « Je vais porter une attention particulière aux villageois. On vous trouvera bien un époux digne de ce nom, chère demoiselle. Vous avez tout pour ravir un homme. » Sans réaliser que le ton n'était pas tellement approprié, Rosalie fit un sourire éclatant qui fit tressaillir le curé. Elle le salua en s'éloignant après avoir essuyé son front couvert de sueur. Son cœur vibrait d'un nouvel espoir à l'idée que Jacqueline Gérard pourrait l'aider dans sa quête d'un fiancé. Heureusement qu'il est revenu au village. J'aime bien mieux ce curé-là, pensa la jeune femme en s'engageant sur la route menant chez les Langevins.